You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les grands titres de ce 6 juin. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison nie que le gouvernement était impliqué dans des perquisitions de journalistes. Le cardinal George Pell, ancien numéro 3 du Vatican, a contesté en appel sa condamnation à 6 ans de prison pour les agressions sexuelles contre des enfants de cœur en 1996 et 97. Et puis les commémorations marquant le 75e anniversaire de D-Day en Normandie ce jeudi. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a nié que son gouvernement soit impliqué dans 2 descentes de police fédérale contre des journalistes. La police fédérale a perquisitionné les bureaux de l'ABC hier en rapport avec un article sur les crimes de guerre en Afghanistan, juste un jour après avoir effectué une descente au domicile de la journaliste de News Corp, Annika Smethurst. Scott Morrison déclare qu'il n'a été mis au courant des raids qu'après leur déroulement.
I think it's important that we just pause and as these issues are worked through in the days ahead, that if there are any issues that we have to address, then I'm open to discussing those. But at the moment, what we're dealing with is 2 separate investigations following a normal process. And any suggestion that these were done with the knowledge of, at the instigation of government ministers, is completely untrue.
Le Premier ministre Scott Morrison, l'opposition travailliste, a rejeté les allégations du gouvernement fédéral selon lesquelles il ne participait pas à ces 2 descentes de la police contre des journalistes. Mark Dreyfus, porte-parole de l'opposition sur les questions légales, a déclaré que le gouvernement devrait expliquer en quoi les raids étaient justifiés.
What we can't have is this hollow words from Mr. Morrison saying that he believes in press freedom when these raids are happening right now in Australia. So can we expect further raids? Why did these happen now when Mr. Morrison and Mr. Dutton were out of the country? The government's responsible for referring this. Not every leak is investigated and they know it.
Mark Dreyfus, porte-parole de l'opposition fédérale sur les questions légales. Deuxième jour de l'audience d'appel pour George Pell à Melbourne ce jeudi. Le cardinal fait appel de sa condamnation pour avoir abusé de 2 enfants de cœur lorsqu'il était archevêque de Melbourne dans les années 90. Il avait été condamné à 6 ans de prison en mars après qu'un jury l'ait déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés en décembre dernier. Mais ses avocats soutiennent qu'il était impossible que ces agressions se soient produites. Si vous ou quelqu'un de votre entourage est victime d'une agression sexuelle, composez le 1800-737-732. Je répète, 1800-737-732. Un Néerlandais et une Australienne sont soupçonnés d'être morts sur la Gold Coast au Queensland. La paire a été vue pour la dernière fois au décollage de l'aéroport de Southport dans un petit avion hier mercredi. L'avion n'est pas revenu. La police pense que plusieurs débris provenant de l'avion ont été retrouvés dans l'eau autour de l'île de Stradbroke. Le sergent de police Jay Notaro a déclaré que la police utilisait des radars et des hélicoptères pour rechercher le couple.
Anyone who locates any debris is asked not to touch it and to call PoliceLink immediately. And I'm calling upon any witnesses who may have seen this plane between the hours of 10 a.m. and 11 a.m. yesterday in the proximity of the coastline at South Stradbroke Island.
Le sergent de police Jay Notaro du Queensland. 300 anciens combattants qui ont pris part au débarquement le 6 juin 1944 sont partis de Portsmouth en Angleterre pour se rendre en Normandie en France. Les anciens combattants, tous âgés de plus de 90 ans, ont quitté Portsmouth à bord du navire Boudica pour retracer leur périple de 1944 à travers la Manche. En France, 2 vétérans britanniques ont parachuté 75 ans après avoir franchi les champs de Normandie derrière les défenses allemandes. Revenons sur la journée d'hier à Portsmouth pour le début des commémorations marquant le jour J avec ce reportage d'Arim Lipold pour Radio France Internationale.
I was 12 years old when I landed on Gold Beach. Sorry, 23 years old.
Lorsque Jeremy Jenkins, 99 ans, s'avance sur la scène pour livrer son témoignage, tout le monde se lève et applaudit, y compris la reine. Elisabeth II, qui elle aussi reçoit des applaudissements du public lorsqu'elle prend la parole pour remercier tous ceux qui ont participé au débarquement en Normandie. C'est le seul discours de la cérémonie qui alterne lecture de textes faites par des invités comme Donald Trump ou Emmanuel Macron, avec quelques scènes jouées par des comédiens, comme une discussion par exemple entre généraux sur le moment opportun de déclencher l'opération Overlord. Le public était au rendez-vous, quelques milliers ont suivi la cérémonie sous un ciel nuageux, parmi eux Anne Newman. Pour elle, le débarquement est profondément ancré dans son histoire familiale.
Mon père a participé au débarquement, il a été blessé. Moi, j'aimerais bien voir les plages d'où il a embarqué et où il a débarqué. En fait, je suis née au lendemain du D-Day. Vendredi prochain, j'aurai 75 ans.
C'est sur une note joyeuse que la cérémonie s'achève au bout d'une heure avec une chanson qui fait bouger et même chanter certains vétérans assis sur leurs chaises. Quelques secondes après, leurs yeux se tournent vers le ciel car les Red Arrows, les avions de la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, survolent les tribunes en formation de flèches, à la grande joie aussi des spectateurs qui visiblement attendaient ce moment avec impatience.
Harim Leipold à Portsmouth pour RFI. Le président américain sera en Normandie ce jeudi 6 juin pour marquer le 75e anniversaire du débarquement. Il sera aux côtés du président français Emmanuel Macron et tous deux rendront hommage aux militaires américains tombés le jour de D-Day. Et après la cérémonie, les deux présidents auront une réunion de 30 minutes à Caen, en tête-à-tête, et ensuite un déjeuner de travail de 1h30. Les relations diplomatiques entre les deux hommes ne sont plus les mêmes, comme nous l'explique Stéphanie Schuller pour RFI.
Il semble loin ce temps tout sourire, avec ses tapes dans le dos, ses gestes familiers et ses poignées de main viriles. Entre Donald Trump et Emmanuel Macron, les offensives de charme mutuel ont laissé la place au pragmatisme. Chacun campe sur ses positions, tout en tentant de faire bouger l'autre. À Washington comme à Paris, on a beau expliquer que de l'eau a coulé sous les ponts depuis la dernière visite de Donald Trump en France en novembre dernier. À l'issue des cérémonies du centenaire de l'armistice, le président américain avait raillé dans une série de tweets la faible popularité de son homologue français. Mais aujourd'hui, plus que jamais, les points de discorde ne manquent pas. Sur l'Iran, le climat ou encore le commerce, les décisions de Donald Trump ont suscité indignation et inquiétude parmi les partenaires européens, dont la France. Pour Emmanuel Macron, le 6 juin 1944 appartient à ces événements qui ont participé à la fondation du multilatéralisme contemporain, mais il est peu probable que l'émouvant souvenir des héros du débarquement réussisse à infléchir la ligne politique du locataire de la Maison-Blanche.
Stéphanie Schuller pour RFI. En Afrique, au Soudan, les violences ont fait au moins 101 morts depuis lundi 3 juin suite à la répression de la contestation sur ordre du Conseil militaire au pouvoir. En France maintenant, Valérie Pécresse annonce qu'elle quitte le parti Les Républicains après la défaite historique aux européennes. Explication Anne Souhaitement, RFI.
Aujourd'hui, la situation est extrêmement grave. Nous venons d'essuyer une défaite cinglante.
10 jours après le score historiquement bas de son parti aux européennes, Valérie Pécresse prend tout le monde de court et annonce qu'elle quitte les Républicains pour sauver une droite menacée d'extinction.
J'ai décidé de quitter les Républicains parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées.
Un an et demi après Xavier Bertrand, la présidente de la région Île-de-France fait donc le même pari, refonder la droite en dehors du parti. Un parti sonné par cette décision, évidemment, c'est une surprise, lâche le député Pierre-Henri Dumont, agacé par un énième épisode de la guerre des égaux qui gangrène notre famille. Ennemi numéro 1, depuis un an et demi, de Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse n'a même pas eu le courage d'être candidate à sa succession parce qu'elle le sait, elle n'aurait pas été élue, raille un cadre de la rue de Vaugirard, qui retient surtout un manque de courage. Quel impact aura le départ de Valérie Pécresse? Est-ce le début d'une hémorragie à droite? L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy emmène dans son sillage une poignée de parlementaires et d'élus locaux. Pas de quoi nous faire de l'ombre, lâche un cadre, en tout cas pas encore.
Anne Swedmont pour RFI. Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie. Perth maximal de 17 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 15, Hobart 16, Canberra 15, Sydney 20, Newcastle 20, Brisbane 23, Cairns 26, Darwin 30 et à Alice Springs maximal de 15 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi 6 juin, le Premier ministre australien Scott Morrison nie que le gouvernement était impliqué dans des perquisitions de journalistes. Le cardinal George Pell, ancien numéro 3 du Vatican, a contesté en appel sa condamnation à 6 ans de prison pour des agressions sexuelles contre des enfants de cœur en 1996 et 97. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
sbs.com.au